Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous disons cette prière à notre âme du travail. Je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, mes réussites. Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, mes espoirs et mes ambitions. À ceux qui ont un métier, donnez la joie du travail bien fait et celle d'un véritable épanouissement. À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, à ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, donnez la confiance et la persévérance. À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, qui travaillent dans l'angoisse du lendemain ou le découragement de la routine, à ceux qui fuient la réalité du quotidien, donnez le dynamisme de l'espérance. À celles qui portent le beau travail de l'enfantement, donnez le rayonnement dans la joie de l'attente et la paix dans l'inquiétude. Soyez la consolation de celles à qui la vie semble se refuser. Notre Dame du travail, ô notre Mère, donnez-nous la force et la docilité de Saint Joseph. Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le dénuement. Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter et consoler. Et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la miséricorde. Amen. Notre-Dame du travail, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Alors ce soir, la deuxième de notre série de conférences qui suit un peu les 9 jours de notre neuvaine à Notre-Dame du travail. Et ce soir, donc, c'est l'éducation à l'école de Marie. Je pense que la Sainte Vierge, comme la première conférence, c'était le travail de l'enfantement. La Vierge Marie a beaucoup à nous dire de l'attente et de la fécondité de la vie. Je pense que la Vierge Marie a beaucoup à nous dire aussi dans le domaine de l'éducation. Mais je voudrais d'abord, évidemment, rappeler quelques principes généraux sur l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Qu'est-ce que éduquer un enfant? Qu'est-ce que éduquer un jeune? Quel est le but, la finalité de l'éducation? Et puis, je verrai dans un second temps ce que la Vierge Marie a de particulier à nous apprendre dans le domaine de l'éducation. Je pose ça comme une hypothèse, si vous voulez, c'est-à-dire je vous demande d'y réfléchir pour m'aider à préciser toujours davantage cette question, parce que cette question est vraiment très importante. Mais je suis de plus en plus convaincu que éduquer un jeune, éduquer une personne, c'est la rendre capable de dire un jour « oui, je veux ». D'un « je veux » qui engage toute la vie, d'un « je veux » qui détermine une vie. C'est-à-dire, au fond, l'éducation, c'est rendre libre. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est incapable de prendre une décision, c'est quelqu'un qui est condamné à l'errance, c'est quelqu'un qui est condamné qui est laissé à ses passions. Je vais en reparler des passions. Éduquer quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est devenu libre parce qu'il est capable de choisir, il est capable de se déterminer, il est capable d'orienter sa vie. Il me semble que quand une personne est capable de dire « oui, je veux », d'un « je veux » encore une fois qui détermine une vie, l'éducation est terminée. Pardonnez-moi cette confidence personnelle peut-être, mais ça m'a énormément marqué. C'est un jour de ma vie qui m'a marqué à tout jamais, le jour où, prenant mon courage à deux mains, parce que j'avais cru pendant un temps qu'il avait quelques réticences par rapport à mon engagement dans la vie religieuse, je n'osais plus en parler à mon père parce que j'avais cru comprendre qu'il était un peu réticent. Et un beau jour, j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'avais décidé, donc il fallait bien le lui dire. Et je suis allé lui dire, « Papa, j'ai décidé de quitter la marine, en l'occurrence, et pour entrer là. » Je ne pourrais jamais, évidemment, oublier sa réponse. Il s'est levé, il m'a serré la main et il m'a dit, « Va, tu es mon fils. » C'est extraordinaire, ça. J'ai compris après, en réfléchissant sur ces choses-là, j'ai compris après que pour lui, sa mission était terminée. Sa mission de père, d'éducateur, était achevée. Et je pense pouvoir aujourd'hui dater de ce jour-là le commencement d'une très grande amitié. C'est-à-dire la relation de paternité se transformait parce qu'il était libre totalement de devenir mon ami et moi le sien, parce qu'il n'y avait plus cette relation. Non pas que l'éducateur n'est pas ami de l'éduqué en quelque sorte, mais évidemment il y a une espèce de, il y a, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de réciprocité qui fait que la supériorité du père par rapport au fils est relative à cette amitié. J'ai toujours été très impressionné de cette réalité. La paternité s'achève en amitié. D'ailleurs, dans la Bible, si vous regardez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu est Père, Dieu est... Et dans certains moments de l'Exode au désert, il ne va pas de main morte. Hein. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et il marque ça fermement. On sent que Dieu éduque son peuple. Jusqu'au jour où la plénitude des temps étant venue, Dieu peut se présenter comme ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais mes amis. Extraordinaire, ça. Devenir l'ami de Dieu. Être l'enfant de Dieu, ça, on le savait. Devenir l'ami de Dieu, c'est quelque chose de radicalement nouveau avec le Christ. Devenir l'ami de son père, devenir l'ami de sa mère, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde, je sais bien. C'est-à-dire, c'est une grâce que tout le monde n'a pas connue. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, et pour mon père, et pour ma mère, et c'est une grâce immense, immense. Éduquer quelqu'un, c'est le conduire jusqu'à ce jour. Alors, ce n'est pas toujours un jour particulier, c'est pas toujours, mais c'est quand même une étape de la vie où on sent que le fils, la fille, le jeune peut partir, va, tu es sur ta route, et maintenant tu es libre, tu vas ta route. Il y a un évêque en France qui a pris ça comme devise d'ailleurs, va, c'est sa devise. En latin, c'est une lettre, I. Sa devise, c'est I, va. C'est beau ça. Je trouve que c'est un très beau mot. Alors, dire je veux, c'est être en pleine possession de toute son énergie pour poser un acte libre. L'acte libre, ça peut être la décision d'un mariage, ça peut être le choix d'une profession, ça peut être le choix d'une consécration religieuse. C'est très très variable. La vie d'un adulte, la vie d'un homme, la vie d'une femme adulte, il y a une multitude de décisions à prendre, mais toutes les décisions ne sont pas équivalentes, et toutes les décisions n'engagent pas une vie. Et même aujourd'hui, la vie professionnelle, ça n'engage pas une vie. Finalement, les seules choses réelles qui engagent une vie, c'est de fait la vie... La situation matrimoniale, ou la consécration, ou la situation matrimoniale, ou bien une décision de prendre son baptême, c'est-à-dire de vivre sa vie de baptisé, mais d'une façon pleine, d'une façon définitive, d'une façon... On a déjà des petites décisions comme ça, le jour où on fait sa profession de foi, environ quand on a 12 ans, je crois, c'est plus papa et maman qui croient, c'est plus mon parent ou ma marraine, j'ai pris la décision de croire. Un enfant de 12 ans est capable de faire ça, mais évidemment à sa mesure. De même, une promesse de Louveteau, c'est beau, une promesse de Louveteau, une promesse de Jeannette quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, de dire je promets d'être fidèle à ma patrie, de faire de mon mieux, parce que c'est ça la promesse Louveteau. Puis la promesse scout après, quand on a 12-13 ans, promet de rendre chaque jour un service à quelqu'un. C'est beau, ces choses-là. Alors ça, c'est les scouts, parce que moi, j'ai bien connu le scoutisme, mais il y a beaucoup d'autres formes possibles dans d'autres associations, dans d'autres mouvements. Mais il y a des décisions comme ça qui sont des décisions progressivement qui vont conduire jusqu'à ce jour de la vie où j'ai cette maturité. J'ai la pleine possession. Est-ce que c'est possible un jour d'avoir pleine possession? Si c'était vraiment possible, il n'y aurait plus jamais de débordement à droite et à gauche. Ben, malheureusement, on est tous bien placés pour savoir que ça, c'est pas vrai. Mais malgré tout, il y a une vie qui est... Il est maître de lui-même, elle est maîtresse d'elle-même, il a en main ses énergies vitales pour pouvoir poser un acte. Quand vous y réfléchissez, c'est très très rare quelqu'un qui est vraiment libre. C'est rarissime. Une personne qui est vraiment libre, libre de ses passions, libre de ses sentiments, libre du qu'en dira-t-on, libre du conditionnement, c'est très rare, c'est très très rare. Essayez de penser à des hommes vraiment libres que vous avez connus, que vous connaissez. Moi, évidemment, j'ai toujours Jean-Paul II en tête, c'est un des hommes les plus libres que j'ai jamais connus. Absolument libre, il est souverainement libre. Mais il y a comme ça des personnes qui sont très libres. En général, c'est très lié à la sainteté. C'est pas par hasard, d'ailleurs. Essayez de réfléchir aux personnes que vous avez pu connaître, aux personnes que vous avez pu rencontrer, qui sont vraiment des personnes libres. La Vierge Marie, évidemment, c'est la liberté. On ne peut pas imaginer plus libre que la Vierge Marie. Après le Christ, bien sûr, mais on ne peut pas imaginer plus libre que la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, sa liberté va s'épanouir totalement dans son fiat, qu'il me soit fait comme tu as dit. On va y revenir à cette réalité, parce que c'est dans la soumission à la volonté de Dieu, c'est dans le don d'elle-même à la volonté de Dieu qu'elle épanouit sa liberté totale. Et ça, on va y revenir, parce que c'est très important. Qu'est-ce que c'est les énergies qu'il faut posséder? Quelles sont les énergies qui me permettent de poser un acte libre? Dans les énergies, il y a les énergies vitales, il y a deux grands domaines d'énergie, il y a l'énergie sensible et l'énergie spirituelle. L'énergie sensible, c'est ce qui est lié au sensible. L'énergie spirituelle, c'est ce qui est lié à l'esprit. Pas trop dur. L'énergie sensible, c'est ce qui est lié au corps, c'est ce qui est lié donc à la vie sensible, aux sentiments, c'est tout ce qui est de la vie sensible. Vous voyez, il y a les sens externes, mais il y a aussi les sens internes. Les sens externes, vous les connaissez bien, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, et puis j'en oublie un, l'odorat. Les sens internes, la mémoire, l'imagination, tout ce qui est de la vie sensible intérieure. Et la vie spirituelle, les énergies spirituelles, il y a deux grands domaines, il y a deux grands appétits spirituels, deux grandes sources d'énergie, vous les connaissez, la volonté et l'intelligence. La volonté qui est orientée, qui désire le bien, qui est attirée par le bien et qui choisit le bien. Et puis l'intelligence qui est fixée, qui est déterminée par la vérité. Dans les appétits sensibles, il y a deux grands domaines aussi, il y a deux grandes sources d'énergie. Ça, ce sont des termes un peu techniques, mais qui sont très traditionnels dans la philosophie de la vie. Le domaine du concupiscible. Le concupiscible, c'est ce qui désire, ce qui est en appétit par rapport au bien, par rapport au bien sensible. Et puis, l'appétit irascible. Irascible, vous reconnaissez une racine, ira, la colère. Donc l'énergie qui permet de dépasser des difficultés. Et le concupiscible qui désire, qui est en appétit par rapport aux choses, le bien immédiatement accessible. Et puis l'irascible qui permet de dépasser des obstacles. Malheureusement, nous savons tous que dans ces domaines des appétits, il y a pas mal de désordres. Il y a pas mal de désordres dans les appétits sensibles. Et de temps en temps, je suis incapable de résister à un morceau de chocolat. Je suis incapable de résister à un baiser. Je suis incapable de résister à une cigarette. Je suis incapable de résister à... dans les difficultés à surmonter, c'est très bien de surmonter des difficultés, mais de temps en temps, je me mets en colère alors que je ne devrais pas. De temps en temps, je suis un peu téméraire alors qu'il faudrait un peu de modération. De temps en temps, j'ai peur alors qu'il faudrait au contraire que j'aie le courage. Vous voyez, il y a des dérèglements dans ces appétits. C'est ce qu'on appelle le domaine des passions. Les passions, elles ne sont pas spontanément ordonnées. C'est-à-dire, elles sont même souvent assez désordonnées. C'est bien d'être passionné. Heureusement qu'il y a des passions. C'est terrible les gens qui ne sont pas passionnés. Les gens qui ne sont pas passionnés, c'est des gens qui sont mous, qui sont flasques. Ce sont des gens qui sont amorphes. Ce sont des gens qui sont, vous voyez, qui n'ont pas cette énergie de la passion. Jésus était un homme passionné. Jésus est même capable de pleurer devant son ami Lazare. Vous voyez, la tristesse, c'est une passion. La joie, c'est une passion. Le désir, l'amour, la haine, tout ça, ce sont des passions. Alors, quand on regarde le Christ, quand on regarde la Vierge Marie, on voit que tout ça est très, très ordonné. Jésus se domine. Même quand Jésus se met en colère, c'est une colère qui ne déborde pas. Moi, de temps en temps, je sens, dans l'éducation en particulier, je sens qu'il faut que je me mette en colère, parce que c'est important de montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais je sais par expérience que quand je me mets en colère volontairement, j'ai beaucoup de mal à maîtriser la colère. Et souvent, elle m'échappe, elle va plus loin que je ne voudrais. Alors, il vaut mieux ne pas se mettre en colère du tout, parce que je risque de la laisser échapper. Et de temps en temps, je sens qu'il faut que j'utilise cette énergie qui est à ma portée, mais je sens que j'ai beaucoup de mal à maîtriser cette énergie. Je sens que pour dépasser une difficulté, il faudrait que j'ai cette énergie, cette audace, mais de temps en temps, je sens bien que j'ai un peu trop d'audace et que je risque de faire une imprudence. Le domaine des passions est un domaine qui est finalement extrêmement difficile à bien maîtriser. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous regardez les enfants, vous les voyez se battre avec des passions, de temps en temps un enfant qui fait une colère. Il va falloir qu'il apprenne à maîtriser ses réactions. Un enfant qui est en appétit terrible, il va falloir qu'il apprenne à modérer ses appétits. Même par rapport à l'amour, c'est surtout chez les adolescents, par exemple, si je me répands en amour, en gestes de tendresse, vous voyez, on va commencer à se bécoter, puis on va y prendre tellement goût qu'on va rester collé. Et une mouche qui ne fait pas attention et qui tourne autour d'un papier collant, elle va finir par se laisser prendre une patte. Une fois qu'il y a une patte qui est prise, paf, elle prend une aile et c'est foutu. Il y a combien de garçons qui sont comme ça devant des filles? Vous voyez, en classe de seconde, la fille, elle est déboutonnée un peu jusqu'au fils, vous voyez, le fils, parce qu'il y a le père, le fils et le Saint-Esprit, vous voyez. Et le garçon qui est à côté d'elle, eh ben, il va regarder dedans pour voir comment c'est, puis il sent que ça lui fait des trucs. Et puis il est comme une mouche autour d'un papier collant, il finit par se coller une aile et c'est foutu. Et il va falloir lui apprendre à maîtriser ses passions. À maîtriser ses sentiments. Dans le domaine du concupiscible, dans le domaine de l'irascible. Vous voyez, vous sentez les... Vous... Et puis dans le domaine des énergies spirituelles, eh ben là on ne parle plus de passion, mais si je n'ai aucune idée du bien, ma volonté, elle est désorientée. Je finis par vouloir des choses qui ne correspondent pas à un bien. Parce que j'ai un appétit qui me fait voir un mal comme un bien, puisque je n'ai pas de boussole. Et ça, c'est très coordonné avec l'intelligence, qui, elle, est déterminée par la vérité. Si je ne sais pas chercher la vérité, si je n'ai pas pris l'habitude de fixer mon intelligence sur la vérité, la réalité, quelque chose, le vrai, eh bien, je suis dans l'idéologie. Mais du coup, je construis des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Je finis par être complètement victime des idéologies. Et là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins, on sait ce que ça veut dire dans le monde actuel. Il suffit de regarder un peu la télé ou Internet, vous voyez très bien ce que c'est que ce monde qui est déboussolé. Un monde qui s'enflamme pour tout d'un coup quelque chose qui est sensible, ou pour une idée, ou pour une réalité. Vous voyez, c'est un espèce de monde complètement flottant, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas orienté. Et c'est terrible parce que un adolescent qui n'est pas éduqué, il ressent des choses, surtout au moment de la puberté, il ressent des attirances, il ressent des choses, des sensations dans son corps, et il est incapable de les analyser parce qu'on ne lui explique pas ce que ça veut dire. Alors, je vais en parler tout à l'heure, mais j'anticipe un tout petit peu. De temps en temps, si on a une éducation trop stricte, on lui dit « ça c'est interdit ». Oui, mais il se bloque sur des choses qu'il ressent et il ne comprend pas pourquoi c'est interdit. Donc on est devant des obligations ou des interdits, mais qui finalement ne l'éduquent pas. Parce que dès qu'on lèvera la barrière avec le panneau interdiction, il va se précipiter dedans, parce que ça continue à l'attirer. Et il continue à prendre un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Il continue à prendre une taupinière pour une montagne, une montagne pour une taupinière. Il n'a pas cette capacité à se déterminer. Alors finalement, il n'est pas libre du tout. C'est pour ça qu'il y a une quantité de gens qui se cassent la gueule et qui sont collés le nez dans le... Et ce n'est pas de leur faute, on ne leur a jamais dit, on ne leur a jamais expliqué, on ne les a jamais aidés. Les passions sont bonnes parce que les passions, ce sont des sources d'énergie. Encore une fois, il n'y a rien de plus terrible de voir quelqu'un qui n'est pas passionné, quelqu'un qui est... Alors après, il y a des tempéraments qui variés. Il y a des tempéraments plus intellectuels, il y a des tempéraments plus manuels, il y a des tempéraments plus énergiques, des tempéraments plus apathiques. Ça, ce sont des tempéraments qu'il faut respecter. Mais il faut développer cette source d'énergie. Mais cette source d'énergie, on sent bien qu'il faut l'orienter. Parce qu'elle n'est pas spontanément orientée. Non seulement elle n'est pas spontanément orientée, mais tous ceux qui ont des enfants savent bien que spontanément, c'est même un peu le foutoir. Spontanément, dans les enfants, il y a une espèce de désordre. Il ne sait pas ce qui est bien. Il ne sait même pas toujours ce qui est vrai. Il va falloir éduquer sa conscience et sa boussole intérieure pour qu'il puisse déterminer lui-même ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qui est à sa portée ou non. Il va falloir, au fond, développer ce qu'on appelle les vertus. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? La vertu, c'est ce qu'on appelle une disposition stable pour agir. Je vais y revenir après, mais avant ça, je voudrais redévelopper la raison, essayer de comprendre pourquoi et comment ces passions sont si désordonnées. À l'origine, au moment de la création, ça c'est la théologie qui nous apprend ça, la révélation nous apprend ça, à l'origine, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu crée Ish et Isha, homme-femme, Dieu crée l'homme dans ce qu'on appelle l'état de justice originelle. Qu'est-ce que c'est que l'état de justice originelle ? C'est une grâce particulière qui fait que tout l'homme était, mais ça on l'a perdu à cause du péché, je vais expliquer pourquoi, tout l'homme était spontanément orienté comme tenu par la grâce de Dieu qui éclaire et qui oriente sa volonté. Et donc, spontanément, Adam et Ève, avant le péché, n'avaient pas besoin d'être éduqués. Ils étaient spontanément orientés vers le bien, orientés vers la vérité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent un acte libre. Ils avaient un choix libre. Mais justement, ils ont fait un choix libre, mais ils se sont plantés. Mais ça veut dire que l'état de justice originelle faisait que leur passion était spontanément orientée au service de leur décision, au service de leur énergie, au service de la volonté qui décide et qui choisit, au service de la raison qui détermine ce qui est vrai et non. Mais en péchant, en refusant Dieu, ils se sont coupés de Dieu, ils se coupent de la vie. Ils ont coupé cette espèce de fil qui les tenait vers le haut. Non pas que Dieu joue aux marionnettes, hein, Dieu n'a jamais joué aux marionnettes. Justement, le drame, c'est que Dieu a créé l'homme libre. Enfin, le drame. Oui, c'est l'immense dignité de l'homme, mais c'est aussi son drame quand il utilise cette liberté pour le mal. Et quand il a coupé cette ficelle, quand il a coupé ce fil, ce fil de vie qui le reliait à Dieu, ben, il est devenu complètement déboussolé. Puisqu'il n'était plus spontanément orienté vers le bien avec un grand B qui est Dieu, il s'est coupé au fond du champ d'attraction divine. Dieu est amour. Dieu est amour. Je vais dire, Dieu est aimant. Un aimant, ça attire. C'est-à-dire, c'est curieux d'ailleurs, parce que c'est le propre de celui qui aime. Quelqu'un qui aime est toujours quelqu'un qui attire. C'est pour ça que la Vierge Marie exerce une très grande attraction. Quelqu'un qui aime, on a envie d'aller s'asseoir à côté de lui, on a envie de l'écouter, on a envie de se mettre à son école. On a envie de le suivre. Et Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu qui attire. Bon. Mais le péché, je mets comme une espèce de tôle, je mets comme une espèce d'isolant entre Dieu et moi. Et je refuse son attraction. Si je refuse l'attraction de Dieu, ben, au lieu d'être orienté vers Dieu, je suis orienté vers n'importe quoi, dans le sens du vent qui souffle n'importe comment. Et pas le vent de l'esprit, hein, le vent sauvage. Regardez, vous allez comprendre ça très bien. Regardez un enfant qui est avec des parents vraiment aimants. Petit à petit, même si les parents ne disent pas grand-chose, des parents qui sont vraiment aimants, d'un amour comme on dira tout à l'heure, c'est un enfant qui spontanément sera orienté vers ses parents. Le drame, évidemment, pour nous, mais ça aura des conséquences terribles, c'est que très rapidement, l'enfant n'est plus tout seul avec ses parents. Enfin, c'est un drame, mais en même temps, c'est très bien, il faut le socialiser, cet enfant. Mais il entend des trucs à la récré, il entend des trucs à l'école, il entend des trucs sur Internet, il entend des trucs n'importe où, qui lui tournent la tête. Il n'est pas... Et il y a des sources d'attraction contraires qui sont terribles, comme le démon a exercé une source d'attraction terrible par la tentation sur Adam et Ève. A contrario, vous voyez un enfant qui n'a pas de parents aimants, un enfant qui est dans une famille déchirée, un enfant qui, quelquefois, n'a pas de parents, ou pire, qui a des parents qui s'entre-détruisent. C'est un enfant qui est complètement déboussolé, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un enfant qui est complètement désorienté, c'est pas de sa faute. Et il y a des plis qui vont se faire, qui seront terriblement difficiles à défaire, si jamais on arrive à les défaire un jour, ce qui n'est pas sûr. Et ça, c'est dans la toute petite enfance que ça se joue. Qu'est-ce qui s'est passé avec le péché ? Le péché, l'homme a mis comme un isolant « Je ne veux pas du commandement de Dieu ». Pourquoi je ne veux pas du commandement de Dieu ? Parce que je veux décider moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Je veux décider moi-même de mon bonheur. Je veux décider moi-même de ma vie. Et vous donnez à quelqu'un une bagnole de course, vous lui donnez la voiture, le carburant à vie, l'entretien à vie, vous lui donnez tout. Ça, c'est pour les garçons, hein. Pour les filles, vous lui donnez, je sais pas, autre chose. La voiture, elle s'en fout, la fille. Bon. Et le garçon, il dit, oui, mais je veux mettre du gasoil dedans. Non, c'est une voiture à essence. Oui, mais je veux mettre du gasoil. C'est une voiture à essence. Oui, mais je veux mettre... Bon, mets du gasoil. Après, il vient dire, mais elle ne marche pas, ta voiture. Mais si, elle marche très bien, mais il faut que tu mettes de l'essence dedans. Il a voulu décider par lui-même le carburant qu'il mettrait dedans. Mais non, il n'y a rien à faire. Et pourquoi l'homme a voulu parce qu'il a été tenté par le démon. Qu'est-ce que c'est que cette tentation ? Je creuse pour essayer de comprendre toujours plus profondément ce que c'est que ce premier péché que nous faisons tous. L'illusion terrible, et je pense qu'on peut tous ressentir cette réalité, l'illusion terrible que je serai libre le jour où je serai indépendant. Je ne veux plus dépendre de personne. Alors tu seras esclave de tes passions désordonnées. C'est terrible, cette illusion, et c'est pour ça que le démon est menteur, prince du mensonge, comme dit Jésus dans le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, menteur, prince du mensonge, homicide dès l'origine. J'ai eu l'illusion que je serai libre quand je ne dépendrai plus de personne. Et je ne veux surtout pas dépendre de Dieu, parce que je veux choisir moi-même. Vous serez comme des dieux, disait Satan à l'homme, capable de décider de vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et si Dieu vous a donné ce commandement, c'est parce qu'il veut vous garder sous sa coupe, parce que Dieu veut continuer à vous dominer. Prenez votre liberté, nom de nom. Et vous savez, aujourd'hui, vous regardez les ruquiers, tous les mecs à la mode là, à la télé, les penseurs obligés d'aujourd'hui, tous les maîtres à penser de cette pensée obligatoire, et qui disent au monde, et particulièrement aux chrétiens, en 2017, vous n'avez quand même pas besoin d'un pape et d'une église pour vous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors comme ça, l'Église est contre le plaisir, l'Église vous empêche de coucher avant le mariage, l'Église vous interdit ceci et cela. Et l'homme qui est un peu comme ça, comme la femme qui n'a pas très bien compris le premier jour, et on essaye, mais non, c'est pas exactement ça, mais on s'emberlificote dans des explications qui n'en sont pas, et tous les ruquiers de la terre vous rigolent et vous ricanonnez, en disant, mais enfin, mais quand même, en 2017, vous êtes assez grand pour décider vous-même ce qui est bon et mauvais. Vous n'avez pas besoin d'un pape qui vous apprend la morale, quand même. Surtout pas la morale sexuelle, qu'est-ce qu'il peut y connaître ? Et la femme regarda le fruit, vit qu'il était beau à voir et désirable à manger, elle en mangea et en donna à son mari. Et ils découvrirent qu'ils étaient nus. C'est fou, ça. C'est fou. Comme on a du mal à faire confiance, comme on a du mal à faire confiance, même à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a cette illusion qu'en étant sous le regard de Dieu, on sera moins libre. C'est précisément ce que le démon voulait, c'est nous faire croire que Dieu était autre que ce qu'il est. C'est-à-dire que Dieu, au lieu d'être un père aimant qui conduit ses enfants sur ce chemin de bonheur, est un empêcheur de tourner en rond. Un Jean-Paul II qui vient de Pologne, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un tour de vis à la morale parce qu'il avait peur que l'Église éclate après le Concile. Et que l'Église en aille n'importe quand. Et pourquoi il donne ce tour de vis ? Parce qu'il a peur que les Églises se vident. Et si les Églises se vident, ils auront moins de fric. Et l'Église, elle est riche, elle aime le fric. Vous savez, vous entendez ça partout. Et donc finalement, l'Église vous impose cette morale parce qu'elle a peur de perdre son pouvoir. Parce que si elle perd son fric, elle perd sa puissance. C'est très exactement les tentations du commencement qui continuent toujours. C'est parce qu'on ne fait pas la différence entre l'indépendance et l'autonomie. C'est bien l'autonomie. L'éducation consiste d'ailleurs à rendre une personne autonome. Je n'ai pas besoin de la tenir en laisse. Je n'ai pas besoin de lui dire toutes les minutes ce qu'elle doit faire. Elle est autonome, elle est libre, c'est une personne qui sait s'orienter. C'est une personne qui a gagné son autonomie, c'est bien l'autonomie. C'est même le but de l'éducation. L'indépendance, alors si vous refusez la dépendance d'amour, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Le bonheur, c'est précisément dans cette dépendance d'amour. Quand je me marie, je deviens dépendant de ma femme. Je deviens dépendant de mon mari. Ben, ou alors je ne suis pas marié. Mais si je n'entre pas dans cette dépendance, je ne saurai jamais ce que c'est que l'amour. Cette dépendance ne m'empêche pas d'être libre. C'est même la source de ma liberté. Si je refuse la dépendance par rapport à Dieu, et Dieu est amour, Dieu est vérité, Je ne suis plus orienté par l'amour et par la vérité. Alors je suis aliéné. Aliéné, qu'est-ce que ça veut dire ? A, privatif, lien. J'ai coupé le lien. Je suis aliéné. C'est d'ailleurs le premier sentiment psychologique qui va naître dans une personne qui est dans le péché. C'est une personne qui est aliénée. Je sens contre... Et c'est d'ailleurs terrible parce que le démon m'avait promis que je serais libre et en réalité, je découvre que je suis aliéné. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. C'est pas pour rien. C'est la vérité qui vous rendra libre, parce que c'est la vérité qui donne un sens à votre chemin. C'est la vérité qui donne un sens à votre action. C'est la vérité qui donne un sens à votre liberté. Je suis aliéné. Et d'ailleurs, les petits-enfants qui naissent, on le sent très bien d'ailleurs, et très vite, je ne nais pas libre, je ne suis pas spontanément libre, il faut que je gagne, que je regagne ma liberté. Il faut que je regagne ma liberté. Et à quel prix ? C'est difficile de devenir libre. Comme c'est difficile. Et c'est spécialement difficile quand j'ai laissé pendant un certain temps mes passions en jachère. Quand j'ai laissé un certain temps ma volonté sans être orientée vers le bien, et que même éventuellement j'ai goûté à des choses qui m'ont fait du mal, j'ai d'autant plus de mal à me libérer. Mais vous savez bien, on a tellement de peine à se libérer de telle ou telle habitude qu'on a contractée. On a tellement de peine à se libérer par rapport à une pensée qui m'obsède, par rapport à un souvenir qui a rempli et qui a obstrué ma mémoire et mon cœur. Comme c'est difficile de rendre libre quelqu'un qu'on a laissé se perdre dans sa nudité, dans son... Alors, ça c'est la première étape du péché, l'orgueil qui cherche l'indépendance. Je me suis coupé de Dieu. Je suis la référence. Je suis la décision. En réalité, c'est un mensonge parce que je découvre que ce n'est pas du tout le cas. Deuxième étape. Puisque c'est moi la référence, il faut que le monde le sache. Et donc, il faut que je sois plus puissant que les autres. Et c'est là que va naître la vanité. C'est plus tout à fait l'orgueil. L'orgueilleux se fout de savoir ce qu'on pense de lui. Le vaniteux est très inquiet de savoir ce qu'on pense de lui. Le vaniteux, il a besoin de se montrer, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin qu'on l'admire, il a besoin qu'on lui fasse des salamalecs, des compliments, des machins. Ça, c'est le vaniteux. Et puis, il fait tout ce qu'il peut pour être vu, parce qu'il faut, il faut que tout le monde reconnaisse que c'est lui qui est la référence. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'admire, il faut qu'on me respecte. Et donc, il faut que j'aie plus que les autres. Et c'est la raison pour laquelle la vanité est très liée à la jalousie. Parce que je vais trouver quelqu'un à côté de moi qui risque de me faire de l'ombre. Je vais devenir jaloux. Quelqu'un qui a plus que moi, qui est plus respecté que moi, qui est plus écouté que moi, qui est plus... J'ai un sentiment de jalousie qui va naître. C'est terrible, ça. Et la jalousie, elle est meurtrière. C'est Cain et Abel. Cain tue son... C'est quand même très intéressant de regarder comment ça s'est passé pour Cain et Abel. Cain et Abel, les enfants de l'orgueil. Mais c'est surtout Cain, parce que Cain est l'aîné. Vous savez, dans une famille, l'aîné est très inquiet de savoir si le petit ne va pas lui piquer quelque chose, pas lui piquer la place. Vous savez, maman annonce qu'elle attend un bébé. Et l'aîné, pas du tout... Oh ben zut alors. Il sent qu'il va perdre sa place. Bon, après, ça a des côtés sympas. On va pouvoir jouer avec un frère ou une sœur. Mais au début... Et ça pose quelquefois des drôles de problèmes. Peut-être encore pire pour le second par rapport au troisième. Enfin bon, on pourrait en parler longtemps. Cain est l'aîné. Cain et Abel sont tous les deux en prière. Cain est très inquiet de savoir si Abel ne risquerait pas de prendre sa place. Cain, au lieu de regarder Dieu comme Abel, parce qu'Abel, il regarde Dieu, donc il est en communication très facile avec Dieu. Il est en lien avec lui. Mais Cain, au lieu de regarder Dieu, regarde son frère. Et voit que son frère est en lien avec Dieu. Et Cain se dit, pourquoi lui, ça marche sur la prière et que moi, ça ne marche pas ? Espèce d'imbécile, au lieu de regarder Abel, regarde Dieu, puis ça marchera très bien pour toi aussi. Et il est jaloux de son frère. Il est jaloux de l'amour que son frère reçoit de Dieu. Ce qu'il pourrait très bien recevoir s'il écoutait Dieu. Il refuse d'écouter Dieu. Alors il tue son frère. La jalousie est meurtrière. Elle est meurtrière. La meilleure manière de tuer votre frère dont vous êtes jaloux, c'est la médisance. Et on ne peut pas tuer tout le monde avec un couteau ou un pistolet, mais on peut tuer tout le monde avec une parole. Et aujourd'hui, vous larguez un truc sur Twitter ou sur Internet, puis en quelques heures, vous avez flingué quelqu'un. Vous avez tué sa réputation, vous avez fait un faux procès. Vous avez fait après, alors ça c'est aujourd'hui, vous voyez, enfin, vous vous sentez très bien de quoi je parle. Au lieu qu'il faille prouver la culpabilité de quelqu'un, c'est à celui qui est accusé qui doit prouver sa bonne foi. Parce que le procès, au lieu d'être à décharge, il est à charge. Terrible. Terrible. Vous avez flingué la réputation. Mais c'est, et aujourd'hui, je vous dis, les moyens de communication modernes donnent une caisse de résonance absolument phénoménale. Phénoménale. Et ça, l'orgueil qui a induit la vanité et donc la jalousie et donc le meurtre avec médisance ou calomnie. La calomnie, vous rajoutez un tout petit peu de mensonge dans la médisance et là, vous avez un truc explosif qui va beaucoup plus vite. Surtout si vous dites à votre voisin, tu le répètes pas parce que j'ai promis de pas le dire. Alors le voisin, immédiatement, va le répéter à au moins 10 persones en disant à chaque fois, je te le dis à toi parce que tu es ma meilleure amie, mais j'ai promis de pas le dire, donc tu le dis pas. Et alors là, vous êtes sûr qu'en quelques heures, ça fait le tour du village ou de la ville. Alors, vous vous êtes coupé de Dieu par l'orgueil, vous vous coupez des autres par la vanité et la jalousie, vous êtes seul. Et seul, vous cherchez quand même la jouissance, puisqu'on est fait pour jouir, on est fait pour le bonheur, on est fait pour quelque chose qui nous fait du bien. Mais la jouissance dans la pensée de Dieu et dans le projet de Dieu, c'est le fruit de la relation d'amour. Comme il n'y a plus de relation d'amour possible parce que je me suis coupé des autres, je cherche la jouissance seule. La jouissance sexuelle, la jouissance intellectuelle, la jouissance de l'estomac, la jouissance de toutes sortes de jouissances. Et il y a des gens qui jouissent avec la politique, des gens qui jouissent avec les mathématiques, il y a des gens qui jouissent avec l'alcool ou le sexe, il y a toute forme de jouissance possible. Mais ce qui est terrible de cette espèce de spirale qui s'enroule, c'est que plus je cherche la jouissance dans ces choses-là, plus je m'enfonce dans quelque chose qui m'enferme dans le malheur. Dans le malheur et dans l'angoisse. C'est là que je veux en venir. Les trois sentiments psychologiques qui sont les conséquences du péché et qui vont être extrêmement importants à bien détecter dans l'éducation. Premier sentiment psychologique, c'est l'aliénation, j'en ai parlé. Deuxième sentiment psychologique, c'est la culpabilisation, la culpabilité. La vanité et la jalousie sont toujours, d'une certaine manière, source de culpabilisation. Je suis culpabilisé des relations que j'ai avec mes frères, avec mes voisins, avec mes proches. Et la culpabilisation, ces sentiments psychologiques sont des sentiments qui m'enferment, sont des sentiments qui sont négatifs. Et puis le troisième sentiment psychologique, dans cette recherche désordonnée d'une jouissance, une jouissance déconnectée de l'amour, ben c'est l'angoisse. Et l'angoisse, c'est la grande caractéristique de notre monde. Ce que j'appelle, moi, la spirale de mort. Vous voyez, c'est une spirale parce que c'est une espèce d'hélice qui nous emporte irrémédiablement. N'éduquez pas un enfant. À tous les coups, il s'engage dans cette spirale et il s'enfoncera de plus en plus dans l'angoisse. Un enfant qui n'est pas éduqué, un enfant qui n'a jamais eu de tuteur, un enfant qui n'a jamais été orienté, un enfant surtout qui n'a jamais été aimé, c'est un enfant qui cherchera son bonheur à l'envers du chemin qui peut le conduire au bonheur. Jusqu'à développer des pathologies psychiques, parfois très graves. Donc l'éducation consiste à dès le commencement, dès l'enfance, dès la toute petite enfance, l'éducation consiste à aider un enfant à découvrir ce qui est réellement la finalité de sa vie. La nourriture est la nourriture saine pour développer son corps. Quand vous laissez un enfant bouffer parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et sans jamais de repas et grignoter tout le temps, c'est un enfant qui est désordonné dans son alimentation. Et c'est l'équilibre quelquefois très fondamental. Un enfant qui n'a jamais appris à dormir à des heures fixes, qui n'a jamais appris la régularisation du sommeil, qui n'a jamais appris c'est un enfant qui sera désordonné dans sa manière de se reposer. Et ça aura des conséquences graves sur la suite. Un enfant qui... C'est la toute première éducation, il n'y a pas de secret, la toute première éducation, c'est les horaires des repas et le sommeil. Et ça passe par des frustrations nécessaires. C'est un enfant qui doit apprendre qu'il y a des limites, un enfant qui doit apprendre qu'il y a un cadre, qu'il y a des repères. Ah, je vais en reparler des repères tout à l'heure. Il y a des repères. Et puis, petit à petit, un enfant qui est aimé, et qui est aimé dès sa naissance, il va découvrir cette attraction de l'amour. C'est l'attraction qui se joue en têtant le sein de sa mère d'abord, et puis ensuite à la caresse de son papa, et aussi, quelquefois, je vais en reparler tout à l'heure, la fessée qu'il reçoit de son père, mais c'est une fessée d'amour, c'est pas une fessée de colère, à savoir, justement, la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on va développer petit à petit, mais dès l'enfance, on ne va pas attendre l'adolescence pour ça, dès l'enfance, on va développer chez lui l'apprentissage des vertus. On ne va pas lui faire un cours de philo, hein. On va lui apprendre les vertus. Qu'est-ce que c'est les vertus? Il y a quatre grandes vertus qui correspondent aux quatre grandes énergies. La vertu du concupiscible. Il faut apprendre à modérer les désirs. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Modérer les désirs, c'est pas frustrer les désirs, c'est pas les couper. On n'ampute pas les désirs, on les oriente. Il faut ajuster les désirs. Et la chasteté, qui est une fille de la tempérance, ne consiste pas à supprimer le désir. Ça consiste à ajuster le désir. Ce serait terrible, quelqu'un qui ne désire plus rien. Quelqu'un qui n'a plus aucun désir, mais c'est épouvantable. C'est le désir qui me fait marcher, je vais vers. Mais vers quoi? Voilà la question. Et donc, la tempérance ajuste mon désir, modère mon désir, pour me faire reconnaître le vrai bien qui m'attire. Mais un bien qui est réellement un bien pour moi, qui me fait grandir, un bien qui me donne réellement d'être qui je suis. Deuxième grande vertu pour l'énergie de l'irascible, c'est la vertu de force. Il faut apprendre à un enfant la force. Il faut lui apprendre à résister dans une difficulté. Il faut lui apprendre à tenir bon avec courage devant quelque chose qui risque de le décourager. Il faut qu'il apprenne cette ténacité. Il faut qu'il apprenne d'avoir de l'audace. Il faut qu'il apprenne. Et ça va peu à peu former ses passions pour que ses passions soient réellement une énergie qui soit à son service. Vous avez empêcher un enfant d'acquérir la force, c'est un enfant qui se découragera au premier obstacle venu. Un enfant qui ne sera jamais capable de dépasser une difficulté, un enfant qui ne sera jamais capable... Et évidemment, tempérance et force vont de pair. Si vous n'avez aucune force, vous avez beau avoir un désir qui est très ajusté, vous n'atteindrez jamais le bien que vous visez, puisque vous n'avez aucune force pour aller vers... Vous n'avez aucune force pour lutter contre quelque chose qui se met en travers. Mais là, c'est très très important la force, avec toutes les vertus qui sont des filles de la force, le courage, la ténacité, le etc. Puis vous avez une vertu pour l'appétit spirituel qui est la volonté. la justice. La justice qui équilibre le bien, qui équilibre la répartition des biens. Il faut apprendre cette justice. Quelqu'un qui n'a jamais été éduqué à la justice, ben, il sera injuste. Il sera incapable de vivre en société. Regardez aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos pays, je dis nos pays parce qu'il n'y a pas que le nôtre, qui sont devenus ingouvernables? C'est parce que chacun réclame son bien et s'accroche aux avantages acquis sans jamais s'occuper du bien commun. Le bien commun, c'est la grande notion de la justice. Si la politique est si difficile dans nos pays, c'est parce qu'on n'a aucune espèce de notion du bien commun. On s'en contrefiche. Et pourquoi on s'en contrefiche ? Mais parce qu'on a vécu comme des pousses sauvages dans une famille où le bien commun familial n'a pas d'importance. On va se servir dans les plats n'importe comment, on n'apprend pas à se servir après que papa et maman soient servis, on parle à table n'importe comment, d'ailleurs, de toute manière, on n'est même plus à table pour manger, du coup, il n'y a plus aucune notion du bien commun. Sauf dans les familles où on apprend ce que c'est, où on apprend à aimer la famille. À aimer la famille, c'est quoi ? À aimer que chacun dans la famille puisse vivre réellement selon son bien, selon ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est l'apprentissage des vertus. Il n'y a pas besoin de comprendre théoriquement ce que c'est d'abord. On va commencer par éduquer un enfant, et éduquer un enfant, on lui apprend à se tenir à table, tout simplement. C'est déjà une éducation par rapport au bien commun. Je vous donne un exemple très simple, mais qui m'a énormément marqué. Mais je vous ai sans doute déjà dit ça, mais parce que j'en dis souvent. Mais chez mes parents, je remercie mes parents qui étaient des bons éducateurs. Vraiment, je crois. C'est pas pour ça que moi je suis bien éduqué, mais si je suis pas bien éduqué, c'est pas de leur faute. C'est de la mienne. Chez mes parents, on n'a jamais coupé les gâteaux en part égale. Jamais. Maman, à combien j'ai droit ? Mais mon chéri. Regarde les gens qui restent à servir autour de la table, et en fonction de ton appétit, tu prends ce que tu penses pouvoir prendre. Ça, c'est éducatif. C'est le Gomorre. Et c'était très, très biblique, le Gomorre, dans l'Exode. Vous savez ce que c'est que le Gomorre ? Chacun, quand il ramassait la manne dans le désert, ramassait son Gomorre. Le Gomorre n'était pas la même mesure pour chacun. Mais toi qui as 6 ans, tu n'as pas le même appétit que ton frère qui en a 17. Donc c'est pas normal que tu aies la même part. Ça n'a aucun sens. L'égalité quantitative n'est pas la justice. Le Gomorre dans le désert, chacun ramassait son Gomorre. C'était la mesure qui correspond à l'appétit de chacun. Alors on ajoute dans la famille, en fonction aussi de ceux qui restent à servir. C'est extraordinaire. Et dans le désert, celui qui voulait faire des réserves de manne pour le lendemain, de lendemain, elle est pourrie. Vous vous rappelez ? Mais c'est, voilà, l'éducation, d'apprendre à servir. Je veux ma part. Mais mon chéri, t'as aucun droit, t'as le droit d'aller te coucher. Vous comprenez ? Et puis, la dernière grande vertu, qui est la vertu pour la raison, c'est la prudence. La prudence, apprendre à décider, apprendre à prendre une décision, apprendre à discerner, apprendre à peser les circonstances, apprendre le bon moment pour se décider, apprendre... aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je pense que c'est à partir du moment où on avait 12, 13 ans, je pense, dans ma famille, mais peut-être avant pour certaines décisions, chaque fois qu'on demandait quelque chose, maman ou papa, est-ce que je peux... Qu'en penses-tu, mon chéri ? Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu décides, toi ? Et pourquoi est-ce que tu décides ça ? Voilà quelque chose qui est éducatif. Au lieu d'avoir des parents qui vous disent « oui, non, ça c'est permis, ça c'est défendu », mais on n'apprend jamais à prendre une décision, on n'apprend jamais la prudence, on n'apprend jamais le discernement. Si au contraire on apprend à considérer, à peser le pour, le contre, à peser les différents éléments, à peser justement en fonction du bien commun, en fonction de la force dont je dispose, en fonction du désir que j'ai, c'est pour ça que la prudence est la mère de toutes les vertus. Voilà l'éducation qui consiste à aider un enfant progressivement, puis un adolescent par la suite, puis un grand jeune enfin, à prendre possession peu à peu de ses puissances vitales pour pouvoir parvenir un jour à prendre une décision libre. C'est beau, ça. Alors, si on est chrétien, l'éducation n'est pas seulement humaine. Là, je n'ai pas parlé de la foi encore. C'est-à-dire, c'est une éducation simplement humaine. Toute éducation humaine devrait développer les vertus. Aujourd'hui, c'est pas très développé partout, hein, moins qu'on puisse dire. Si on est chrétien, on va disposer en plus de trois vertus qui sont évidemment capitales, mais qui sont appelées théologales, parce que ce sont des dispositions que Dieu crée directement dans mon âme par la grâce baptismale. Et les vertus cardinales dont j'ai parlé, la tempérance, la force, la justice et la prudence, ce sont des vertus que j'acquiers. Ce sont des vertus que j'acquiers comment ? Eh bien, en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant des actes de courage que je deviens courageux. C'est en faisant des actes de tempérance que je deviens tempérant. C'est en prenant des décisions justes que je deviens prudent, etc. Et, mais ce sont des vertus que j'acquiers. Tandis que les vertus théologales, elles sont directement créées par Dieu dans l'âme du baptisé. Donc ce sont des vertus que je vais exercer, mais que je n'acquiers pas. Elles sont données. Elles sont données à celui qui les reçoit. Elles sont toujours données. Faut-il encore que je les reçoive ? Et pour les recevoir, il faut que j'ai un terrain qui soit prêt à les recevoir. C'est-à-dire, il faut que j'ai un cœur ouvert, un cœur libre. D'où l'importance des vertus cardinales pour ouvrir mon cœur aux vertus théologales, mais l'importance aussi des vertus théologales pour exercer d'une façon juste les vertus cardinales. Donc si on est vraiment dans une famille chrétienne, dans une éducation chrétienne, je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Les vertus cardinales vont s'appuyer sur les vertus théologales et réciproquement. Qu'est-ce que c'est les vertus théologales ? Vous les connaissez. La foi, l'espérance et la charité. La charité, c'est la plus grande des trois parce que c'est la seule qui restera au ciel. La foi, c'est ce qui me fait connaître le mystère de Dieu et qui me fait adhérer au mystère de Dieu. Et ça, dans la vision béatifique, je verrai, j'aurai plus besoin de la foi. Et l'espérance, c'est cette force qui me pousse vers l'avant, qui me fait désirer ce dont je suis sûr que ça viendra, mais qui n'est pas encore. Donc l'espérance, c'est cette force qui me pousse en avant. Et la spiritualité de la bicyclette que je mentionne souvent, la foi, c'est ce qui lui donne l'équilibre. L'espérance, c'est ce qui lui fait aller de l'avant. Et si vous n'avez plus d'espérance, la bicyclette s'arrête, et vous tombez. La foi ne suffit pas. Et la charité, c'est la joie de vivre sur la bicyclette. Ça va ? La foi, les vertus théologales, elles doivent être vécues dès la toute petite enfance. Et elle se développe à mesure qu'on découvre Jésus. Elle se développe à mesure qu'on découvre la vie chrétienne. C'est terrible, des petits-enfants qui on ne les emmène pas à la messe parce qu'ils sont trop petits. C'est terrible. Oui, mais à la messe, ils bougent. Mais on s'en fout qu'ils bougent. Il va chanter Alléluia, mais petit à petit, il va s'accoutumer à cette atmosphère. Il sait ce que c'est qu'un crucifix, peu à peu. Il reconnaît le visage de la Vierge Marie. Et puis, il ne le reconnaît pas seulement sur la statue, mais il va découvrir qu'il y a une réalité intérieure. Et puis, il va voir sa maman qui prie, il va voir son papa qui prie. Ça marque un enfant à tout jamais de voir son père à genoux. Ça marque des enfants à tout jamais de voir un prêtre qui célèbre la messe et qui est recueilli quand il célèbre. Ça marque des enfants à tout jamais d'entendre une paroisse tout entière qui chante. J'ai pas commencé à vivre ma foi à 7 ans parce que j'ai commencé le caté. Ça, c'est très très important. Quand on regarde les enfants du catéchisme, ceux qui arrivent au caté, qui ont déjà vécu dans une famille chrétienne, qui ont déjà développé les vertus théologales, ils vont apprendre des choses théoriques, ils vont mettre des mots sur des réalités qu'ils vivent déjà. Tous ceux, c'est l'immense majorité, qui commencent le caté sans aucune expérience de la vie chrétienne avant, ils commencent par la théorie. Ils commencent la religion par des mots. Pour les premiers, la religion sera toujours quelque chose d'abord de pratique, d'abord d'intérieur. Pour les autres, la religion sera toujours, d'une certaine manière, d'abord quelque chose de théorique. Ça, c'est fondamental, ça. Fondamental. Est-ce que vous allez faire la prière aux enfants ? Dis bonsoir au petit Jésus. Imbécile. imbécile. Ah, ça m'est... Rien ne m'agace plus que ça. Mais l'enfant, il a envie de grandir, il voit bien que ses parents s'en foutent, il voit bien que les parents, en fait, ne prient pas. Et donc, l'enfant qui a envie de grandir, eh ben, il a envie de laisser tomber la prière le plus vite possible. Au contraire, si vous faites entrer les enfants dans votre propre prière et qu'ils voient les parents qui prient, les enfants, ils ont envie de ressembler à leurs enfants, à leurs parents. Les enfants ne sont pas faits pour obéir, ils sont faits pour imiter. Comment est-ce que vous allez éduquer un enfant dans la tempérance ou dans la force si vous n'en avez aucune? Comment vous allez éduquer vos enfants dans la justice et dans la prudence si vous n'avez ni l'un ni l'autre? Comment est-ce que vous allez éduquer les enfants dans les vertus théologales si vous moquez de la foi et que la messe du dimanche n'a aucune importance pour vous? C'est une logique implacable, implacable. Comment est-ce que je vais développer l'espérance? L'espérance, je vais la développer par la prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui me met peu à peu en présence de Dieu. Et je découvre que Dieu est mon Père, que je ne suis pas là par hasard, et que Dieu, Père, me conduit vers le bonheur, comme un Père qui est tendre et miséricordieux. Je ne peux pas développer l'espérance sans prier. Ne priez pas, vous n'aurez plus aucune espérance, et vous resterez dans l'angoisse. N'apprenez pas à un enfant à prier, vous êtes sûr de le laisser dans l'angoisse quand il sera grand. Comment est-ce que je vais développer la foi? Mais la foi en découvrant la parole de Dieu. Dieu me parle, et Dieu me parle en m'annonçant la vérité, en me révélant la vérité. Il faut que je fréquente la parole de Dieu, il faut que j'apprenne à marcher sur les routes de Jésus. Il faut que j'apprenne cette amitié avec le Christ. Il faut que le Christ devienne quelqu'un pour moi. Ma religion, je ne cesse de le dire, ma religion, c'est quelqu'un. Et ma religion, ce n'est pas une idée, ma religion n'est pas une conception du monde. Ma religion, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui est mon ami, quelqu'un qui me conduit à Dieu, quelqu'un qui est le chemin en même temps que la vérité elle-même. Et c'est ça qui est la vie. Et c'est ça qui me donne cette affirmation de la foi. Oui, je crois en ce Dieu que j'ai rencontré, en ce Dieu que je touche par le dedans, en ce Dieu qui me parle et à qui je parle. Et puis la charité. Mais la charité, c'est la vie sacramentelle, la réconciliation qui me fait expérimenter la miséricorde et l'amour de Dieu. L'Eucharistie qui me fait expérimenter cet amour d'un Dieu qui va jusqu'à se donner en nourriture. Comment est-ce qu'une épouse éprouve l'amour de son mari en se donnant à lui? Comment est-ce qu'un mari éprouve l'amour de son épouse en se donnant à elle? La charité, c'est la vie dans les sacrements et c'est le service des autres qui finalement ne font qu'un. Donc l'éducation, eh ben, nécessairement, si c'est une éducation chrétienne, passe par l'apprentissage de la prière, même quand les enfants sont agités, ils seront encore plus agités s'ils ne prient pas. Même si c'est difficile, mais bien sûr, nos prières familiales, je cite maintenant beaucoup cette maman qui me disait, parce que je trouve ça magnifique, cette maman qui me disait, il n'y a pas très longtemps, autrefois j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Je trouve ça très fort. Autrefois, ben oui, quand on est jeune, on a des beaux principes. Puis on s'aperçoit que, ben, avec les enfants qu'on a, c'est difficile. Notre prière familiale, elle n'est pas terrible, même moins que terrible. Mais elle existe. Et peu à peu, on va donner des repères aux enfants. Alors, qu'est-ce que Marie vient faire dans tout ça? Qu'est-ce que Marie nous apporte dans cette éducation? Marie, c'est le milieu... Marie, c'est l'atmosphère. Marie, c'est le sourire maternel. Marie, c'est ce cœur maternel. Et ce cœur maternel, il est à multifacettes. Il y a une quantité de choses. Je voudrais souligner la douceur, mais aussi la fermeté, la force de Marie. Au fond, je suis convaincu, ça c'est l'expérience qui m'a appris ça peu à peu, Je vois trois formes de pédagogie possibles. Parce que l'éducation, je vois ce que c'est. La pédagogie, c'est pour mettre en œuvre l'éducation. Je vois trois pédagogies possibles. Et je la vois expérimentalement autour de moi tout le temps. La première pédagogie, c'est la pédagogie que j'appelle la pédagogie du manche à balai. Pédagogie du manche à balai, c'est la loi, c'est la rigidité de la loi. Ça, oui, ça, non. Ça, c'est permis, ça, c'est défendu. Et très rapidement, ma religion est un ensemble de choses permises et de choses défendues. Ça a l'avantage d'être très droit. Et je connais des familles comme ça, où vous avez 8 enfants, comme ça, tous l'arrêt du même côté, avec une petite culotte grise ou une petite jupe comme ci, comme ça. Et on sait faire le baisement, on sait faire non Uber, amen, amen. On sait tout ça, on sait très très bien le faire. Mais c'est raide comme la justice. Regardez un manche à balai, qu'est-ce que c'est ? Et c'est parfaitement droit. Mais si vous essayez de le plier, ça pète et ça fait des éclats qui font très mal. La rigidité de l'éducation est toujours désastreuse et obtient très souvent des clashs. Combien on connaît de personnes qui ont été éduquées ? Enfin, maintenant, ça se tarit peu à peu parce que c'est une génération qui passe. Mais combien de personnes on a connues qui ont été éduquées chez les sœurs ou chez les frères et qui ont tout envoyé promener dans l'âge adulte parce que justement, ils ont été éduqués par des sœurs ou des frères imbéciles qui ne leur ont jamais expliqué ce que c'était ? La sœur Annette en est un modèle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire une éducation rigide, c'est comme ça. Mais papa, pourquoi ? C'est comme ça. Ben, alors, un jour ou l'autre, vous aurez des clashs. Je ne sais pas si, pour illustrer ça, j'aime beaucoup montrer, quand je travaille avec des éducateurs, j'aime beaucoup montrer ce film extraordinaire. Mais c'est vieux maintenant, mais c'est un film très significatif de cette réalité, le cercle des poètes disparus. Le père de ce gosse qui est très sympathique d'ailleurs, extrêmement sympathique, il veut faire du théâtre, mais son père veut qu'il soit médecin. Tu seras médecin, j'ai décidé pour toi. Et ça se termine par un suicide, et un suicide avec un pistolet. Hein. Vous connaissez ce film ? C'est un très beau film. Cette espèce d'éducation rigide, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup parce que vous voyez très bien à quoi ça correspond. Hein. L'éducation, la pédagogie du manche à balai, l'inverse, à l'opposé, c'est ce que j'appelle la pédagogie de la guimauve. Qui consiste à dire, mais c'est toi qui vois, mon chéri, tu sais, tu fais comme tu penses. Tu veux pas aller à la messe, tu sais, faut pas se forcer. Tu veux pas manger ça, mais surtout ne te force pas, mon chéri. Tu veux dormir tout de suite, mais va dormir. Tu veux pas dormir, mais va pas dormir. Vous voyez, la guimauve, c'est ce qui prend la forme de la cuillère dans laquelle on la ramasse. Et aucune limite, aucun repère, aucune contrainte. Il faut surtout pas de contrainte. Ça obtient un suicide soft. Et le manche à balai, vous allez au suicide hard. La guimauve, vous allez au suicide soft. Pour illustrer ça, pour moi, un magnifique film extraordinaire, mais qui demande d'être discuté avec des éducateurs, c'est Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est un modèle du genre. Vous voyez, sauf la mamma sicilienne, mais ça, c'est une contrainte plutôt sympathique, donc c'est pas une contrainte. Mais je me fonds dans le grand tout, ma famille, c'est mes dauphins, et finalement, ça se termine par un suicide. Il part dans la mer, il se fond dans l'océan. Vous voyez, c'est un suicide qui part dans la drogue, un suicide qui part dans on se perd parce qu'il n'y a aucun repère. Donc on est dans une espèce d'immense marécage. En fait, on se perd dans l'angoisse, tout simplement. Vous voulez que vos enfants soient angoissés, surtout ne leur donnez jamais aucune contrainte. Au milieu de ça, moi, je voudrais, c'est ça que je voudrais développer, la pédagogie de l'enthousiasme. Et ça, pour moi, c'est vraiment la pédagogie mariale, la pédagogie de l'enthousiasme. La pédagogie qui est comme un immense sourire, mais un sourire dans une force qui est une très grande fermeté mais une fermeté qui est à la fois douce. C'est, pour moi, la Vierge Marie, elle est comme la femme couronnée de 12 étoiles avec la lune sous les pieds, mais elle écrase la tête du dragon avec une souveraine puissance. Sa puissance, c'est en réalité sa pureté, c'est en réalité sa clarté, c'est en réalité sa transparence. Et c'est ça que je voudrais tellement donner comme modèle aux enfants, aux jeunes. C'est parce qu'il y a quelque chose d'exaltant là-dedans, il y a quelque chose d'enthousiasmant. La pédagogie de l'enthousiasme. Le bon pasteur, il n'est pas derrière son troupeau à pousser les gens. Le bon pasteur, il est devant ses brebis. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. La pédagogie du bon pasteur, il est toujours devant. Je me rappelle avoir engueulé très fort un jour un moniteur qui était avec une équipe de ski. Il était avec une équipe d'enfants de 12 ans. Vous savez, il y a des moments où j'avais 700 gosses sur les pistes de ski dans la station. Je peux vous dire qu'on n'emmène pas large, hein. Et 700 gosses de 8 à 18 ans. Et je peux vous dire que c'est des semaines où je ne vivais pas. Et un jour, je vois une équipe d'enfants de 12 ans qui était menée par un moniteur et qui c'était le foutoir dans son équipe. Et le ski, on ne peut pas rigoler, hein. Alors j'engueule très fort le moniteur qui me dit « Mais mon père, je ne peux pas être derrière chacun. » « Ah, mais je ne te demande pas d'être derrière, je te demande d'être devant. » Et s'ils n'ont pas envie de te suivre, t'es pas fait pour ce métier. Allez, va te coucher. Mais non, mais c'est vrai. Si on n'a pas envie de suivre le chef, c'est qu'il n'est pas fait pour être chef. Si on n'a pas envie de suivre un éducateur, c'est qu'il n'est pas fait pour être éducateur. Il sera peut-être excellent à faire la cuisine ou le ménage, mais il n'est pas fait pour être éducateur. Mais c'est pas la vocation de tout le monde d'être éducateur. C'est la vocation quand même des parents, s'ils ont des enfants. Alors les parents, s'ils ne savent pas bien faire, il faut qu'ils se fassent aider. Pédagogie de l'enthousiasme. Pédagogie de l'enthousiasme, c'est d'abord une pédagogie qui pose des repères. Et les repères, c'est fait pour repérer le terrain. Il n'y a rien de pire pour un jeune, pour un enfant, pour un jeune adulte. Il n'y a rien de pire que d'être dans un espèce de marécage ou sur un champ de mine, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, et tout est dangereux. Tout est dangereux, c'est une angoisse terrible. Et l'angoisse est augmentée et multipliée par le fait qu'on a été souvent déçu par des gens qu'on croyait être des repères solides et qui en réalité ont craqué. Ça, c'est terrible, ça. On croyait s'appuyer sur des repères forts, et ces repères se sont avérés de faux repères. Terrible, terrible, rien de pire. Alors c'est la toute première chose de l'éducateur. Il faut qu'il soit prêt à se faire secouer. Si un éducateur est un repère, un poteau indicateur, il va se faire secouer. Surtout secouer par des jeunes qui ont été souvent déçus. Et plus les jeunes ont été déçus, plus ils vont secouer l'éducateur. Et ils vont le secouer dans tous les sens, parce qu'ils vont le tester pour voir si réellement il tient. Et si vous n'êtes pas prêt à vous faire secouer, vous n'êtes pas fait pour l'éducation. Il faut, c'est la plus grande charité par rapport aux enfants ou aux jeunes, c'est de tenir bon. Ça, oui, ça, non. Et c'est moi qui serai le plus fort. Et ça, tu ne passeras pas. C'est comme ça. Tu as fait ça, tu prends le train demain matin, c'est fini. J'ai droit quand même à une chance. Non, on avait signé au départ, c'est comme ça. Je vais raconter une histoire. Un garçon de 17 ans, qui comme ça, je raccompagnais au train un matin, la veille au soir, et il avait bécoté une fille. C'était pas un péché mortel, mais c'est imbécile. Bon, puis c'était net dans la charte éducative, on a dit, c'est aucun flirt. Bon, donc ça, c'est, avec moi, c'était, ou une cigarette, c'était recta. Donc le matin, je le conduis au train, après avoir téléphoné à ses parents, qui n'étaient pas très contents, parce qu'ils croyaient avoir la paix en vacances, et on leur refile le gosse. Bon, et ce gosse, je me rappelle, toute ma vie, je me rappellerai cette poignée de main sur le quai, parce que moi, je n'emmène pas large. C'est pas drôle d'être obligé d'être ferme avec un garçon. Puis je pensais à lui, très souvent je pensais à lui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que je n'ai pas été trop sévère avec lui? Bon, 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, il me téléphone un jour. Mon père, vous vous souvenez certainement pas de moi. Je m'appelle un tel. Oh, si je me souviens de toi, et comment je me souviens de toi? Je me rappelle exactement pourquoi je t'ai foutu dehors. Ben justement, C'est un peu à ce propos-là que je vous téléphone, parce que je voudrais me marier, je voudrais que vous m'aidiez à préparer mon mariage. Voilà un poteau indicateur. Il a trouvé une fois dans sa vie un repère qui tenait bon dans les affaires d'amour. Et c'est vers ce repère qu'il se retourne le jour où il a besoin réellement d'orienter sa vie. Ça m'a beaucoup impressionné, ça. Et on pourrait multiplier des exemples comme ça. Parce que le poteau indicateur, vous allez le secouer dans tous les sens jusqu'au jour où enfin vous êtes sûr que ce poteau tient. Et c'est seulement quand il sait que ça tient qu'il va lever la tête et c'est par là. Alors il va aller par là parce qu'il a confiance. Mais avant qu'il ait confiance, il va tester le poteau. L'enfant, il n'est pas fait pour obéir, il est fait pour imiter. L'adolescent, lui, il n'est pas fait non plus pour obéir, mais il va tester, il se pose en s'opposant. J'aime beaucoup cette expression. Il faut qu'il se cogne à quelque chose qui lui résiste. Il faut qu'il sente les limites. Il faut qu'il sente les repères. Et il va tester. Parce qu'il a besoin d'explorer son terrain. Et si c'est un terrain qui n'a pas de limites, eh bien, il est dans l'angoisse. L'adolescent se pose en s'opposant. Jusqu'au jour où il devient adulte, il se pose en communiant. Il a découvert son repère, alors il sait maintenant où il va, il devient libre. Et il peut communier, et c'est comme ça qu'il devient vraiment, vraiment vivant, et vraiment sur la route du bonheur. Pédagogie de l'enthousiasme, c'est d'abord poser des poteaux indicateurs. Ensuite, c'est trois grandes caractéristiques, et c'est là particulièrement qu'on est dans la spiritualité mariale. Et puis j'aurais fini avec ça. La Vierge Marie, c'est d'abord la transparence. Personne n'est transparent comme la Vierge Marie. Et l'éducation, il faut une transparence totale. C'est-à-dire, dans l'éducation, il faut une clarté absolue. Dans l'éducation, il faut une vérité totale. L'enfant ne supporte pas qu'un éducateur puisse lui mentir. Ce n'est pas possible. On n'est pas tenu de tout dire, mais on ne doit jamais biaiser. On ne doit jamais mentir, on ne doit jamais tourner, tournicoter autour du pot. C'est est, est, non, non. Comme dit Jésus, oui, oui, non, non. Tout le reste, c'est superflu. Tout le reste est du malin, tout le reste est du mauvais. Et la Vierge Marie, c'est coupant comme la vérité, c'est transparent comme le cristal. L'éducation nécessite cette transparence parce qu'il faut qu'il y ait une confiance totale. Si vous n'avez pas confiance dans votre éducateur, rien n'est possible. Rien n'est possible. La transparence est source de paix. Mais la transparence nécessite une très grande humilité. Je ne suis pas la lumière. L'éducateur n'est pas la lumière. L'éducateur conduit vers la lumière, mais l'éducateur conduit vers la lumière, non pas d'une façon statique, l'éducateur accompagne, une maman accompagne, une mère conduit, elle, au début elle porte, et puis ensuite elle apprend à marcher, et ensuite elle indique la direction parce qu'elle est elle-même sur cette route. Pas plus humble que la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. L'éducateur est un serviteur. Serviteur de la vie. Première grande caractéristique de l'éducation, selon la Vierge Marie, la transparence. Deuxième grande caractéristique de l'éducation, selon la Vierge Marie, c'est l'amitié. L'amitié, la bonté, la tendresse. Il faut tellement de tendresse dans l'éducation. Notre monde, vous savez bien, c'est une de mes grandes convictions, notre monde crève de manquer de tendresse. Et alors c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de toucher les enfants. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'exprimer la tendresse. Mais bon sang de bonsoir, touchez vos enfants, aimez-les, embrassez-les, prenez-les dans vos bras. Avec clarté, c'est pour ça que j'ai commencé par la transparence. Mais un enfant qui n'a jamais connu la tendresse, c'est terrible, c'est terrible. Chaque année, je prêche ce week-end tendresse pour les couples. Chaque année, je trouve des couples qui ont 30, 40 ans de mariage et qui viennent me dire, mon père, vous nous parlez de tendresse, on ne sait pas comment faire, on n'a jamais eu de tendresse dans notre vie, comment il faut faire? Alors je les prends dans mes bras, je les serre très fort, au bout de quelques secondes, ils se mettent à pleurer, je leur dis, c'est bon, vous avez compris. La tendresse exige une très grande force de la part de l'éducateur. La tendresse exige une très grande vérité, parce que dès qu'il y a un équivoque possible, c'est épouvantable. Et donc il faut qu'il n'y ait jamais d'équivoque là-dedans. Jamais. Aucune équivoque possible. Transparence absolue. Mais la tendresse, on a tellement besoin de tendresse dans notre monde. La tendresse, la douceur, l'amitié. L'amitié n'est possible que dans cette tendresse. L'amitié froide, ça n'existe pas. C'est pas de l'amitié. L'amitié froide, c'est l'amitié des collègues de bureau. Mais c'est pas une amitié. C'est pas une relation. C'est pas une vertu. La Vierge Marie, il n'y a pas plus tendre, pas plus vrai, pas plus ami que la Vierge Marie. Être ami de sa mère, ça, la Vierge Marie nous apprend ça. L'amitié, c'est-à-dire qu'il y a une réciproque, il y a un lien réciproque. J'ai toujours été très impressionné que ma mère nous prenait toujours pour des grands. Jamais, jamais, ma mère n'a fait cul-con-con, bon sang. Elle nous a toujours parlé comme des grands, même quand on avait 2 ans. Elle a toujours parlé un langage de grand, avec des mots choisis, mais elle n'a jamais gâtifié avec nous, jamais. Et c'est un langage vrai. Et puis la troisième grande caractéristique de l'éducation de la Vierge Marie, c'est la responsabilité. Responsabilité qui s'engage, qui se mouille. La responsabilité qui prend en charge. La responsabilité, je suis responsable. C'est-à-dire, je suis prêt à rendre compte. La responsabilité, je mettrai dans la responsabilité cette capacité de miséricorde. Un enfant, un jeune a fait une bêtise, c'est moi qui suis responsable. Je prends en charge. Je couvre. C'est pour ça que Dieu, Père, est miséricordieux parce qu'il prend sur lui. Jésus est miséricorde parce qu'il prend sur lui. Il se présente devant le Père comme le seul responsable du péché de toute l'humanité. C'est fantastique ça quand même. Et quand au ciel, encore à la porte du ciel, Satan cherchera à m'arrêter en disant à Dieu, mais tu sais, tu vas lui pardonner, tu sais ce qu'il a fait. Et Jésus s'interposera en disant, stop, j'ai payé, la dette est payée. C'est Jésus qui sera mon avocat, mon défenseur. Et la Vierge Marie, n'en parlons pas, elle ira me chercher par-dessus le mur, si la porte est fermée, elle ira me chercher quand même derrière la porte. Une mère à qui on arrache ses petits, c'est pas possible. La miséricorde, je mettrai encore une dernière caractéristique dans cette responsabilité, la discrétion. La discrétion, c'est une très grande vertu de l'éducateur, la discrétion. Il faut une très grande discrétion. Je ne parle pas à tort et à travers des jeunes que j'accompagne. Je dois rester. Ça ne m'appartient pas. J'étais toujours très sévère quand dans des réunions d'éducateurs, on parle des uns et des autres comme si c'était des numéros, comme si on dit ce qu'on a à dire, mais on le dit avec cette discrétion qui respecte des personnes qui... Et puis la discrétion, c'est que quand on a reçu un secret, c'est un trésor absolu qui ça ne m'appartient pas. Quelqu'un qui trahit un secret, il n'y a rien de plus grave. Alors évidemment, dans le secret de confession, n'en parlons pas. Mais même dans l'éducation, trahir le secret d'un jeune, trahir la parole d'un jeune, d'un enfant, c'est quelque chose d'épouvantable. On fait des drames épouvantables avec ça. La Vierge Marie, c'est une tombe. La Vierge Marie, c'est un cœur scellé. On peut tout lui dire, mais on est sûr que c'est gardé comme un trésor précieux. Elle ne va pas parler à tort et à travers de moi à n'importe qui et dans le ciel. Voilà, je m'arrête. Pardon, j'ai été un petit peu plus long que je ne pensais, mais quand je suis sur ces sujets-là, j'ai beaucoup de mal à me, à me, à me maîtriser. Je suis prêt quand même, il est 10h10, je suis prêt à répondre à quelques questions s'il y a quelques questions éventuelles, et sinon on laisse la Sainte Vierge continuer le travail. C'est un beau travail l'éducation, c'est une belle vocation. C'est une vocation tellement, tellement difficile et c'est un métier... aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de bons éducateurs parce que ça demande un engagement total, quoi. Ça demande un très fort engagement. Et donc, c'est un métier extrêmement exigeant. Extrêmement exigeant. C'est pour ça qu'on en a si peu. Puis ça demande certainement d'être bien formé aussi, d'être... Voilà, je suis prêt à essayer de répondre à deux ou trois questions s'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Oui. Jusqu'à ce qu'il puisse dire « oui, je veux » d'un « je veux » qui détermine sa vie. Il y en a pour qui ça arrive à 20 ans, même peut-être 18, c'est rare. 18, on n'est pas fini de cuire, c'est rarissime. 20 ans... La maturité dans notre monde d'aujourd'hui, mais c'est très difficile d'établir des règles parce que c'est très très compliqué. Et puis il y a c'est pas mais un garçon est très rarement mûr avant 24 ans aujourd'hui. Et une jeune fille, moi je mettrais 22 si je voulais essayer de donner une moyenne. Les filles sont toujours plus mûres que les garçons, toujours plus tôt. Et c'est Dieu qui a voulu ça parce que les filles ont une grande responsabilité dans l'éducation des garçons. On aurait pu dire ça. Dans l'éducation, l'éducation consiste aussi à aider les garçons à se décider et à aider les filles à patienter. Plus les filles sont impatientes, moins les garçons osent se décider. Et moins les garçons osent se décider, plus les filles sont impatientes. Alors il faut aider les deux, chacun dans son domaine. C'est vrai, les filles très impatientes, ça fout une trouille épouvantable aux garçons. Mais les garçons qui sont mous et qui ne savent pas se décider, ça décourage les jeunes filles, je comprends. C'est des souffrances qu'on connaît bien, je sais à qui je parle, des souffrances toujours terribles.
Là, vous avez parlé, quand vous évoquiez les vertus, c'est des vertus qui sont applicables aussi bien pour les garçons et les filles.
Ah oui, oui. Alors après, on pourrait développer, évidemment, je n'ai pas du tout fait ça, mais on pourrait développer les caractéristiques propre de l'éducation féminine et de l'éducation masculine, parce qu'effectivement, surtout dans le domaine de l'amour et de l'amitié, il y aura des caractéristiques propres à chacun et à chacune. Oui, ça oui. J'ai pas trop envie de me lancer là-dedans, parce que j'en ai pour un moment là. Si je me lance sur l'éducation particulière garçons et filles, mais on pourrait beaucoup en dire. Si vous voulez, en deux mots, l'homme est fait pour donner, il est tout entier pour l'extérieur, il est tout entier pour le don, jusque dans ses organes sexuels, il est vers l'avant. Et l'homme, il est fait pour bomber le torse et pour être vers l'avant, parce qu'il est fait pour le don, c'est une énergie pour le don. La femme, elle est tout entière pour accueillir et pour féconder, ce qui est tout à fait autre chose. Donc même corporellement, d'abord ses organes sexuels sont intérieurs, ce qui dit énormément de sa psychologie et de son être. Et même dans son attitude, c'est une femme qui va conserver, qui va garder. Donc dans l'éducation, il faut apprendre à un garçon à aller de l'avant, il faut apprendre à une jeune fille à la vie intérieure. C'est la première question que je vais poser à une jeune fille qui me parle d'un garçon, est-ce qu'il sait où il va ? Première question que je vais poser à un garçon qui me parle d'une jeune fille, est-ce qu'elle est intérieure ? C'est vraiment les deux grandes qualités premières, absolues. Que je cherche pour un garçon ou pour une fille. Mais on pourrait énormément développer tout ça, évidemment.
Oui, j'aurais souhaité savoir comment est-il possible de réparer à l'âge adulte un véritable naufrage éducatif.
Si on peut le récupérer, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faut accompagner, mais sachant qu'il y a des cas où on peut aider à vivre, faire qu'une vie soit vivable... Même bancal, mais réparer, il y a des choses qui sont irréparables. Il existe, hélas, des blessures d'enfance qu'on ne réparera jamais. Ça, c'est sûr. Qu'on pourra compenser. Et puis la grâce, évidemment. La grâce vient à bout de tout. Hein. La grâce permet de vivre même des vies qui seraient invivables, bien sûr. Donc on ne peut jamais désespérer. Mais il ne faut pas non plus imaginer que... un enfant qui a été dans des dans des faux plis à l'adolescence, il ne faut pas imaginer qu'à l'âge adulte, on va réparer ça. Ce n'est pas vrai. On pourra apprendre à trouver des compensations. Hein, et quelqu'un qui boite, on pourra lui apprendre à marcher en boitant sans s'user trop vite. Mais on restera boiteux. Hein. Alors, après, il faut voir les cas. Hein. Puis il y a des cas qu'on pourra... Il y a des accompagnements qui pourront durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des accompagnements qui nécessiteront 10 ans et pour parce que ce sont des accompagnements de confort. Je dis des accompagnements de confort, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un soutien régulier, mais on n'arrivera jamais à les rendre totalement autonomes. Ça c'est bon, mais ça on est là aussi sur un terrain sur autre chose. Enfin, c'est un autre sujet qui est important aussi, mais qui est un autre sujet. Sœur Elvira au Cénacle, Cenacolo. Sœur Elvira est une sœur italienne qui a fondé des maisons où elle reçoit des garçons et maintenant des filles. Il y a des maisons pour les filles de jeunes qui ont été perdus dans la drogue. Elle fait des miracles. Elle fait des miracles. Mais elle fait des miracles par ça passe par une. Alors là, elle, pour moi, c'est un des modèles de la pédagogie de l'enthousiasme et de la maternité dans l'éducation. Mais ça passe par une fermeté radicale. Radicale. C'est très, très impressionnant, d'ailleurs. Si vous voulez, tous les programmes de guérison de personnes dans la drogue, par des drogues soft et par des trucs... c'est toujours un échec. Toujours un échec. Elle, c'est absolu. C'est un sevrage total, définitif. Et quand il y a un garçon qui entre, il est porté par deux gaillards qui vont vivre 24 heures sur 24 avec lui. Et avec 2 heures de prière par jour, et avec on va travailler à pelleter des cailloux et du truc. Il faut restaurer une vie. Elle fait des miracles par la miséricorde et par la tendresse, mais qui passe par une fermeté absolument extraordinaire. Je suis très impressionné. C'est pour moi un des cas très impressionnants que je connaisse.
Ce sont des sessions longues.
Il y en a qui restent 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui sont fermés, qui sont jusqu'à ce qu'on redevienne éventuellement autonome. Mais ça a commencé en Italie, puis il y a une fondation assez célèbre, pour ceux qui connaissent, à Medjugorje. C'est là que je les ai découverts, moi. Puis il y a maintenant une maison à Lourdes depuis quelques années, et une depuis 1 an ou 2 à côté de Lyon, tout près d'Ars. C'est vraiment une communauté qui fait des miracles. Ça, avant de le connaître, je ne savais même pas que c'était possible de faire des miracles comme ça. Et c'est le miracle de l'amour, vraiment le miracle de la tendresse maternelle. Et c'est pas rien, soit une sœur qui a fait ça pour des hommes. C'est parce que elle a fait même un bouquin qui s'appelle comme ça, L'étreinte. Et elle parle de l'étreinte qui libère. Et quand elle prend un garçon dans ses bras, elle le serre dans ses bras jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il pleure. Et elle dit, là, il y a quelque chose de gagné. Et quand elle laisse un garçon repartir dans sa famille pour la première fois, après quelques mois ou même quelques... elle dit au garçon, quand tu vas arriver, tu vas prendre ton père dans tes bras et tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas voir, à partir de 4, il commence à pleurer et à 7, c'est gagné. Il t'a demandé pardon. Parce que c'est quelquefois les pères qui doivent demander pardon aux jeunes. Et la drogue, on n'y va pas par hasard. Hein. Enfin bon, je pourrais en parler longtemps, mais ça m'a énormément impressionné de découvrir cette femme qui est une femme bouleversante. Oui. Oui, il y a des étreintes qui emprisonnent, il y a des étreintes qui libèrent. Il y a des étreintes qui libèrent l'énergie. Ça, c'est la tendresse. C'est le miracle de la tendresse. C'est ça, la Vierge Marie. C'est le modèle absolu de ça, pour moi. Ça, c'est... Bon. Ça vous va? Il y a un peu de matière à digérer, là.
Merci.
Allez, on peut prier. Prions. Yeah.
Regina Celine, Tare, Alleluia. Quia que me vuisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Et par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et il demeure à jamais.
Amen. Amen.